D'aujourd'hui, eh bien, à vrai dire, je vais commencer en vous donnant une petite illustration. Il se trouve que au nord de Rome, il y a un château, et il y a très très longtemps de cela vivait un couple qui l'habitait, mais la dame avait des mœurs un peu particulières et recevait des visiteurs quand son mari n'était pas là. Quand il était en voyage, elle recevait de la visite. Et il se trouve que à chaque fois qu'un visiteur venait lui rendre visite, de préférence la nuit, eh bien, elle le faisait sortir par une porte particulière. Alors, il essayait toujours de rentrer d'une manière très délicate et de manière à ne pas attirer l'attention. Mais pour sortir, il devait passer par une porte. Et elle ouvrait la porte et évidemment, il fallait qu'il se dépêche. Et dès qu'il avait franchi la porte, eh bien, il tombait dans une grande fosse et on n'en entendait plus parler. Pas de traces. Ben là, j'ai votre attention, ça fait plaisir. Hein, là, j'ai votre attention. Alors, tout ça pour dire qu'il y a des portes que l'on franchit et qui vont nous amener dans une spirale. Alors peut-être pas qu'ils vont nous amener à notre mort, hein, mais en tout cas, il y a des portes que l'on franchit et il faut les connaître, ces portes-là. Et aujourd'hui, eh bien, je vais d'une manière continuer sur la foi, mais je vais prendre un aspect, je vais parler d'un ennemi de la foi. Pendant des semaines, j'ai prêché sur la foi. Jusqu'à quand ça va durer, je ne sais pas. Mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à aborder ce sujet, en tout cas. Regardez avec moi dans Nombre, hein, chapitre 21. Nombre, chapitre 21. À partir du verset 4. Dis à ton voisin, la suite va être meilleure. Ok. Alors, à partir du verset 4, donc il est question ici du peuple d'Israël, un peuple qui a été secouru à cause de miracles par le Seigneur, qui était esclave en Égypte, où les premiers Hébreux s'étaient réfugiés, et puis il se trouve que le Seigneur a entendu leur cri. Et quand on souhaite être délivré de quelque chose, eh bien, le Seigneur vient à notre rescousse. Et ça n'est pas toujours comme on le pense. Beaucoup de gens parlent de chasser les démons et tout cela. Et franchement, quand il y en a un, je ne supporte pas qu'il reste en ma présence. Donc, entre lui et moi, s'il y a un des deux qui doit rester quelque part, ça va être moi, ça c'est certain. Néanmoins, je dirais à 98%, dans 98% des cas, les gens, quand ils doivent être délivrés, en général, c'est d'eux-mêmes. 1% d'être délivrés des autres et 1% d'être délivrés des démons. Hein ? Très souvent, on a plus besoin d'être délivré de soi-même qu'autre chose. Donc, les Hébreux sont dans le désert et puis, regardez, à partir du verset 4... Il est dit, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. On a entendu une parole tout à l'heure au sujet de l'impatience. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Ça, c'est un des dangers. Quand on commence à perdre patience, en général, on commence à parler contre Dieu ou contre un responsable. Alors, notre employeur, si on est au travail, notre mari ou notre épouse, le père, la mère, le pasteur, le maire. Mais il y a toujours quelqu'un qui va en prendre pour son grade en général. Hein. Et il dit comme cela à Dieu, il dit également à Moïse, et il dit, mais pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert ? Et là, c'est dangereux, là, parce qu'il commence à poser une question en remettant en question l'intention de celui qui a initialisé leur délivrance à leur propre demande. Et puis, il commence à remettre en question les dispositions de cœur de Moïse. Et il dit, ah ah, vous nous avez fait monter dans le désert parce que franchement, hein, vous vouliez nous faire mourir. Oh, ce n'était pas la peine qu'ils sortent d'Égypte pour mourir. Hein. Esclaves comme ils étaient, ils n'avaient pas beaucoup d'années à vivre. Il suffisait qu'ils restent un petit peu plus longtemps et ils y seraient tous passés parce que le cœur du Pharaon était en train de s'endurcir à leur égard. Et ils disent, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pain ici, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Nourriture qui avait été pourvue à coups de miracles. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Alors, quand on lit que le Seigneur envoya, on a l'impression que c'est l'Éternel qui est en haut, assis sur son trône, et il en a assez, il ne supporte plus. Pourquoi ? Parce que l'Éternel est un petit peu sensible des nerfs. Rien à voir avec le fait que la Bible nous dise que Dieu est patient. On a l'impression que c'est cela, et on a l'impression que Dieu, assis sur son trône, dit à quatre anges, 1, 2, 3, 4, hop, sifflez. Et tous les serpents, on va les envoyer contre ce peuple dans le désert. Mais ça, c'est une vision infantile. Dieu n'avait pas besoin d'envoyer les serpents. Les serpents étaient déjà dans le désert. Le miracle, alors en hébreu, il y a le causatif et le permissif. Le Seigneur n'a pas causé, il a juste permis dans le sens que le Seigneur jusque-là les avait protégés. Les serpents sont dans le désert. Les venimeux, les pas venimeux, les araignées, les insectes, toutes ces choses sont déjà dans le désert. Mais par leurs propres paroles, ils étaient en train de dire qu'ils allaient mourir dans le désert. Et le Seigneur n'a pas pu empêcher ces choses parce qu'ils parlaient, ils se maudissaient eux-mêmes. C'est étonnant ce que l'on peut dire sur le coup de l'impatience. Et ensuite, il est dit, le peuple, verset 7, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Ben oui, finalement, ils se sont rendus compte que c'était suite à leur péché, non pas suite à la sensiblerie du Seigneur. Hein. Et puis, il continue en disant à Moïse, ben, prie l'Éternel afin qu'il s'éloigne, qu'il éloigne de nous ces serpents. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont su à qui s'adresser. Ils ont su qui était leur pasteur. Et Moïse, quand même, il est sympa, hein, il aurait pu dire, race de vipères, vous n'avez qu'à mourir après tout. Hein. Vous l'avez cherché, j'en ai assez de vous entendre. Eh bien non, je ne prierai pas pour vous. Et oui, Moïse, il a eu compassion. Il a prié. Et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Alors, il y a quelque chose de bizarre, mais la Bible nous explique en Jean chapitre 3, qu'à vrai dire, le Seigneur a pris ce qui causait leur mort et l'a exposé. Et la Bible nous dit que cela représentait le jugement que Jésus allait porter à la croix. Ils se sont fait un serpent d'airain, les reins représentent le jugement, ils l'ont élevé sur la perche et quand ils ont regardé, ils ont vu que le jugement qui était tombé, il y avait une solution. Et que c'était la solution du Seigneur. Encore fallait-il qu'il accepte. C'est-à-dire que quand le serpent des reins, il faut comprendre que quand le serpent des reins qui représentait la croix à venir a été exposé au milieu du camp, la Bible nous dit que pour qu'il ne soit pas affecté, pour qu'il ne meure pas à cause des serpents qui étaient au milieu d'eux, il devait continuer à regarder ce serpent. Et on pourrait dire, facile. Après tout, je vais te dire, tu as le choix entre regarder ce serpent des reins ou alors ne pas le regarder, c'est facile. Eh bien non, ce n'était pas si facile que cela. Parce qu'il est précisé que le verbe regarder, c'était regarder de manière fixe, regarder intentionnellement. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas avoir un œil sur la solution de Dieu et en même temps avoir un œil sur ce qui se passait autour d'eux. Il ne pouvait pas se laisser distraire par les cris. Vous croyez que tout le monde a regardé la solution de Dieu? Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui tout le monde a envie de Jésus? Pourtant Jésus est annoncé, Jésus est élevé en France, Jésus est prêché en France. Est-ce que tout le monde en veut? Non. Et bien là, c'était la même chose. La solution de Dieu, le remède de Dieu était élevé et c'était quiconque a été mordu conserve la vie. Quiconque a été touché par le péché conserve la vie s'il a les yeux sur la solution. Alors, si quelqu'un avait été mordu, ou moi je dirais, celui qui était intelligent, c'est au cas où je sois mordu, je vais regarder, parce que c'est là la solution. Et c'est une solution qui est infaillible, parce que c'est une solution qui est venue de Dieu. C'est la solution de Dieu, c'est l'idée de Dieu qui est supérieure à tous les problèmes qu'il peut y avoir dans le camp. Dans le camp, on entend des gens qui hurlent parce qu'ils ont été mordus par un serpent venimeux. Dans le camp, il y a des mamans qui pleurent leurs fils. Dans le camp, il y a des gens qui courent dans tous les sens. C'est la panique dans ce camp et ça n'est pas un camping 5 étoiles avec peut-être 800 personnes dans le sud de la France. Il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes qui sont dans le camp. Mais chacun doit choisir pour lui-même. Aucun adulte ne peut choisir pour un enfant qui est devenu un adulte. Chacun pour lui-même a le choix. Est-ce que je vais accepter la solution de Dieu ou est-ce que je vais faire les choses à ma manière? Et quand il est dit que chacun devait regarder, il devait regarder avec insistance, ne pas perdre des yeux la promesse, ne pas perdre des yeux la solution. Et pendant qu'il regardait la solution, le Seigneur était à l'œuvre dans leur vie, dans leur corps. Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était facile de continuer à croire que la promesse de Dieu était suffisante? Est-ce que c'était facile de continuer à croire que le remède que Dieu avait donné était suffisamment? Lui qui est intouchable, lui qui est saint, lui qui est séparé, lui qui est consacré, lui qui est au-dessus de tous, avait-il une solution qui soit satisfaisante pour les êtres humains? Pendant que certains étaient en train de regarder, il y avait des cris. Pendant que certains regardaient, pendant que certains faisaient tout pour se concentrer sur la promesse, il y avait beaucoup de choses autour d'eux qui leur disaient que ça ne marchait pas, soi-disant. Et ça ne marchait pas pour qui? Pour celui qui faisait les choses à sa manière. Ça ne marchait pas pour qui? Ça ne marchait pas pour le rebelle. Ça ne marchait pas pour celui qui avait une opinion supérieure à celle de Dieu. Il fallait faire preuve d'humilité. Il fallait croire que Dieu avait compris le problème et que la solution était suffisante et que oui, il allait faire exactement ce qu'il avait dit. Pendant qu'un serpent pouvait s'enrouler autour de la cheville de celui qui regardait. Et là, la personne avait le choix. Je continue à regarder. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est pas possible de regarder la solution et de regarder le problème en même temps. Ça n'est pas possible de regarder la solution et d'écouter ceux qui se plaignent. Ça n'est pas possible de se regarder soi-même et de regarder le Seigneur. Je parle de quoi ce matin? Je vais parler de l'apitoiement. T'as vu, ça c'est un scud. Hein, je vais parler de l'apitoiement ce matin. Et mes amis, l'apitoiement, self-pity, est une porte que l'on ne peut pas franchir. Parce que si on accepte de franchir cette porte de l'apitoiement, mes amis, c'est la descente. Non, mais je sais que personne n'est concerné ce matin. Hein. C'est uniquement les personnes qui vont écouter par Internet. D'ailleurs, chers amis, nous vous saluons. Denise, nous vous saluons. Mais si quelqu'un commençait à regarder la solution et en même temps se disait, et pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi, une fois de plus? Pourquoi? Écoutez bien. Écoutez bien. Ne posez jamais cette question « Pourquoi ?» si vous ne souhaitez pas une vraie réponse. Il y a beaucoup de gens qui disent « Pourquoi ? Pourquoi ?» pas parce qu'ils veulent une réponse, mais uniquement parce qu'ils veulent susciter un questionnement. Le pire, c'est que ce questionnement-là va affecter tous ceux qui l'entendent si tous ceux qui l'entendent ne sont pas forts dans le Seigneur. L'apitoiement est une porte que l'on ne peut pas franchir. Le verbe s'apitoyer, c'est compatir. Je compatis à mon propre sort. Évidemment, c'est moi et moi et moi. J'ai la photo numéro 1 normalement qui devait être là. C'est se plaindre. C'est pas possible, qu'est-ce que j'ai mis? Ah bah oui. Je vois que plusieurs s'identifient. S'apitoyer, c'est compatir. C'est se plaindre. C'est pleurer. Écoutez bien, c'est pleurnicher. C'est s'attendrir. C'est s'attrister. C'est s'émouvoir. Évidemment, il ne s'agit pas de faire preuve de pitié. Ce n'est pas de la pitié que l'on a pour les autres. Ça n'est pas une compassion que l'on aurait pour quelqu'un qui est dans une situation difficile, c'est juste moi et moi et moi. Et je me plains et je m'émeus sur ce que je vis et je pleure sur ce que je vis et je pleurniche sur ce qui m'arrive et je, et pendant que j'ai les yeux sur je, qu'est-ce qu'il m'arrive? Pourquoi moi? Je n'ai plus les yeux sur celui qui a la solution. Je n'ai plus les yeux sur celui qui a une solution qui est supérieure aux besoins que j'ai. Dans 1 Rois, chapitre 19, pour vous donner le contexte, 1 Rois, chapitre 18, il se trouve que Élie, qui était un prophète en Israël, a vraiment été conduit par l'Esprit de Dieu, il n'a pas fait de compromis et il a osé confronter 450 prophètes de Baal. Ces 400 prophètes de Baal induisaient le peuple d'Israël en erreur, ou comme on dirait en Bretagne, ils l'enduisaient avec de l'erreur. Et Élie a été oint et il a obéi au Seigneur, il les a confrontés et il leur dit, allez voilà, on va voir qui est le Dieu, qui est le vrai Dieu, c'est votre Dieu ou c'est le mien? Voilà, on sacrifie chacun un taureau et puis on va mettre de l'eau tout autour sur le taureau, on va invoquer le feu du ciel, on va invoquer l'éternel Dieu et le Dieu qui consume le sacrifice est celui qui sera Dieu. Et la Bible nous dit que les prophètes de Baal ont crié à leur Dieu du matin au soir. Et Élie, et je raffole cette scène, Élie est là en train de rire. Ah ah, alors, il est où votre Dieu? Et qu'est-ce qu'il fait votre Dieu? Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui sont tellement préoccupés par les démons qu'ils n'auraient jamais osé confronter une cartomancienne. Et lui, il en a 450 devant, et il est en train de rire, il dit, alors, où il est votre Dieu? Il est en vacances? Il est en congé? Et puis 3 heures après, il est parti aux toilettes parce qu'à un moment, c'est ce qu'il lui dit. Donc, Élie passe vraiment un bon moment. Et quand la Bible nous dit qu'ils se sont coupés, ils se sont saignés, ce qui nous rappelle que quand quelqu'un se coupe, se saigne, se fait du mal, c'est sous l'inspiration des démons. Et ensuite, la Bible nous dit qu'Élie a invoqué le nom de l'Éternel, le feu du ciel est tombé, a consumé, et tout le monde a su qui était le Dieu d'Israël. Mais il se trouve que Jézabel a entendu parler de ce qu'Élie a fait à ses prophètes, et elle était furax. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, eh bien, je vais m'occuper de ce prophète. Et versets 1 à 6, Achab ou Akab, qui était le mari de Jézabel, rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait à la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il a peur des paroles de cette femme, de cette impie, de cette femme qui adore des idoles, qui promeut une fausse religion, alors qu'il vient de voir un miracle extraordinaire en invoquant le Dieu du ciel. Le sacrifice est consumé alors qu'il n'y avait pas de feu sous le sacrifice. Le feu est tombé du ciel. Et ensuite, il a fait tuer les 450 prophètes. Et là, il entend des paroles et il a peur. Et la Bible parle, il ne va pas confronter, il ne va pas rester sur ses positions. Il commence à se laisser impressionner par les menaces de mort qui pèsent sur sa vie. Et il y en a d'autres qui sont impressionnés par les menaces de mort qu'il y a sur leur couple. Il y en a d'autres qui se laissent impressionner par les menaces de mort qu'ils viennent d'entendre du médecin. Vous comprenez ce que je veux dire par là, hein ? Il n'y a aucun médecin qui... Par le diagnostic qui vient d'être lu. D'autres qui sont impressionnés par les menaces de mort qu'il y a sur leur poste au travail. Alors qu'ils ont expérimenté la gloire de Dieu dans tellement de domaines de leur vie. Et alors la réaction d'Élie, il fuit, il arrive à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, alors il n'a pas demandé, vous savez si vraiment il voulait mourir, il suffisait qu'il reste devant le palais de Jézabel. Et c'est exactement ce qu'elle voulait faire. Donc, quand il dit, il parle à Dieu et il dit « Je veux mourir », il dit « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et il se coucha et s'endormit sous un genêt. Regardez la réaction. Et voici un ange le toucha et lui dit « Allez, lève-toi !» Il y a un petit accent. « Lève-toi, mange !» Il ouvre un œil, parce qu'il n'est pas sûr, il veut mourir le gars. Il ouvre un œil, il ouvre le deuxième, et là il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, et c'était même pas froidi. C'était extraordinaire. Il alla dans le désert, lui il veut mourir, il ne veut pas manger. Et une cruche d'eau. Il mangea et but. Et qu'est-ce qu'il fait, le gars ? Eh bien, il se recouche. Il est en train de fuir. Quelquefois, il faut se demander pourquoi on va au lit. Qu'est-ce qui se passe ici ? On a un grand prophète. Alors, pour vous dire, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Moi, ça m'est arrivé de m'apitoyer sur mon sort. Ça m'est arrivé, mais à un moment, on sent qu'on est dans une spirale. Et à un moment, il faut arrêter net. Évidemment que l'on a une intervention. Le Seigneur ne va nous aider, mais à un moment, ça devient notre choix. Et ici, on voit ce grand prophète quelqu'un comme l'un de nous qui a expérimenté la gloire de Dieu, qui a vu des miracles, qui a entendu parler des merveilles, qui a des promesses devant les yeux, et il doit continuer. Élie n'a pas fini son ministère. Élie n'a pas vu toutes les promesses que Dieu a pourvues. Élie n'a pas encore vu sa destinée accomplie devant lui. Il a beaucoup de choses à faire, comme toi, beaucoup de choses à faire. Mais il a perdu de vue la solution et il a les yeux sur lui-même. Il est en train de s'émouvoir de son cas. Il est en train de pleurer sur lui-même. Et quand on pleure de soi-même, qu'est-ce que l'on fait? On a tendance à se trouver là où on ne devrait pas être. Il y avait l'image numéro 2 normalement. Hein. Je ne sais pas si vous avez les numéros, je les ai indiqués. Élie. Verset 7, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Élie n'était pas là où il devrait être, où il aurait dû être. Et le Seigneur ne lui a pas posé cette question parce qu'il ne savait pas où était Élie. Le Seigneur nous voit tous, il sait où on est. Mais quand on est à la mauvaise place, je ne parle pas simplement géographiquement, je parle émotionnellement, spirituellement. Le Seigneur dit, mais qu'est-ce que tu fais ici ? C'est-à-dire qu'il veut que nous prenions la responsabilité de répondre à la question. Une des choses que l'on apprend, c'est que quand on s'apitoie sur son sort, en général, on le fait parce qu'on ne veut pas assumer des responsabilités. Et très souvent, quand on ne veut pas assumer des responsabilités, la tendance est de que faire ? Accuser quelqu'un d'autre. Alors, heureusement, on s'est rappelé, le Seigneur n'est que bon. Et Élie répond, « J'ai déployé mon zèle, verset 11, pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée les prophètes. Et il dit, je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Élie est en train de s'apitoyer sur son sort. Il est en train de se regarder le nombril. Et parce qu'il se regarde le nombril, eh bien, tout d'un coup, il a ce sentiment d'être seul. Est-ce que c'était vrai? Non, ça n'était pas vrai. Parce que son serviteur, quelques phrases plus haut, lui a dit qu'il a caché 100 prophètes de l'Éternel et qu'il les a nourris alors que c'était un temps de famine dans le pays. Mais quand on s'apitoie sur son sort, quand on s'émeut sur sa situation, quand on commence à regarder tout le négatif, on a tendance non seulement à accuser que quelqu'un ne fait pas sa part, on a tendance à oublier que très souvent, on a accepté certaines choses. Et à force de se regarder, de penser négatif, à force de macérer, eh bien, on finit par se retrouver seul, même si ça n'est pas vrai. Et on peut voir que l'apitoiement, eh bien, met un filtre sur notre âme, met un filtre sur nos yeux, et nous fait voir les choses d'une manière qui est irréelle, voire qui est fausse. Et on voit qu'au verset 14, eh bien, Élie reprend la même chose et il dit « Je suis resté moi seul ». Il y a eu la photo 3 là. Et le Seigneur, non seulement Élie a oublié que son serviteur lui a dit qu'il y avait 100 prophètes de l'Éternel qui avaient été cachés. Mais le Seigneur lui dit, eh bien, je vais te dire qu'il y a 7000 hommes qui sont mes adorateurs dans le pays. Élie n'était pas seul. Mais comme Élie avait franchi une porte, au moins elle était entrouverte. Il était découragé, il était là où il n'aurait pas dû être. Il aurait dû être en compagnie d'autres personnes, mais ayant fui dans le désert, c'était sous l'impulsion de la peur, alors que s'il avait pris le temps de se poser en disant « Mais qui est Jézabel ?» Qui est cet impie-là ? Je connais mon Dieu. Et qui que ce soit, cette personne qui me menace, eh bien, je crois que mon Dieu, une fois de plus, me délivrera. Mais non, il a cessé de regarder les promesses de Dieu. Il a les yeux sur lui-même. Et quand on a les yeux sur lui-même, tout d'un coup, on devient plus grand que Dieu. Le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens de Dieu. Donc, on est vite déprimé. Et une chose que fait la dépression, une chose que fait l'apitoiement, c'est que si on franchit cette porte, avant de tomber tout en bas, on tombe dans la dépression. Si quelqu'un commence à être déprimé, c'est certain, cette personne a franchi la porte de l'apitoiement. Alors, les conséquences, et d'ailleurs je vous recommande, mais vous le lirez chez vous, Luc chapitre 15, vous rappelez l'histoire du fils prodigue. J'ai juste plus qu'une nanoseconde, une seconde, une vraie seconde d'hésitation entre prodige et prodigue. Et si je ne suis pas assez rapide, eh ben. Mais relisez-le. Là, on a l'histoire de cet aîné, là. Image numéro 4, qui apprend que son frère est rentré à la maison et qui nous fait une crise de ce que vous voulez et qui refuse d'aller à la fête qui est organisée par son frère et il est en train de s'apitoyer sur son sort. Heureusement, le père ne fait pas ce que beaucoup d'entre nous auraient fait, c'est-à-dire qu'il n'a pas cédé à l'apitoiement de son aîné. Quand on entend des gens qui commencent à s'apitoyer, eh bien, souvent, on a tort d'essayer de les consoler. Parce que les gens qui s'apitoient sur leur sort, en général, n'arrêtent pas de parler à tout le monde. Pas pour avoir un conseil, juste pour le dire et le redire et le redire. Pas pour s'en sortir, mais parce qu'on les plaint. Et il y a quelque chose qui m'a toujours étonnée, c'est de voir la photo d'un bébé et de voir la photo de ce qu'est devenu ce bébé 50 ans, 60 ans, 70 ans plus tard. Je ne parle pas des rides, parce que ça c'est pas cela, même si, quand même, mais ce n'est pas cela. C'est l'expression sur le visage. On voit quelqu'un qui portait l'innocence. Et on voit quelqu'un qui certaines personnes ont des expressions, certaines de méchanceté, d'autres de, ils sont refermés sur eux-mêmes. C'est pourquoi, vous savez pourquoi? Parce que notre corps est une éponge. Les gens ne s'en rendent pas compte. Notre corps est une éponge. Notre corps, sans nous, à l'intérieur, eh bien, ressemble à un gisant, ressemble à un statue, rien de plus. Mais c'est une éponge. Il prend nos émotions. Et c'est très facile de savoir comment est quelqu'un. Il suffit de regarder l'expression. Je vois la lumière, je ne vois pas la lumière. Je vois. C'est très facile. Très facile. Je ne parle pas en cas de fatigue, non. Je dis. Un style de vie. Et quand les gens s'apitoient sur leur corps, sur leur sort, ça fait quelque chose à leur corps, ça fait quelque chose à leur ADN. C'est aussi simple que cela. Non, mais vous pouvez sourire. Et le Père, ici, n'est pas entré dans le jeu. Il a répondu à ce que disait le fils aîné, qui disait, « Ouais, t'as jamais rien fait pour moi, t'as jamais fait de fête pour moi, t'as jamais rien célébré pour moi. » Et le Père dit, « Non, mais tous les jours, t'aurais pu avoir une fête, parce que tout ce que j'ai est à toi. Il suffit que t'en profites, bébé grandit un peu. » Aïe, aïe, aïe. Alors, quelles sont les conséquences si on s'apitoie sur soi? Quelles sont les conséquences quand on franchit cette porte? Eh bien, le point de vue que l'on a sur la vie, que l'on a sur les intentions des autres, est irréaliste. En général, il est exagéré. C'est une porte qui conduit vers la dépression, c'est-à-dire vers le bas. Et l'apitoiement sur soi conduit à un endroit de ténèbres et de désespérance. L'apitoiement sur soi nous amène à nous définir comme une victime et on oublie le conquérant et le vainqueur que nous sommes en Christ. L'apitoiement, eh bien, fait en sorte qu'on n'assume plus nos responsabilités, image numéro 6, mais qu'on accuse tout le monde. C'est-à-dire que celui qui s'apitoie sur son sort n'a pas besoin du diable pour ruiner sa vie. Il se sabote lui-même. Il se sabote à son travail parce qu'en général, les gens qui ne montrent pas d'enthousiasme, qui ne cherchent pas à aller de l'avant au travail, il n'y a pas de promotion pour eux. En général, les gens qui s'apitoient sur leur sort n'ont plus d'amis. À force d'accepter... à force de croire que leur situation est la plus tragique au monde et que personne n'a jamais vécu cela, et à force de se plaindre à tout le monde, de chercher l'attention de tout le monde, parce que quelqu'un qui s'apitoie, c'est quelqu'un qui cherche l'attention, pas les vrais conseils, qui cherche le regard des autres, pas la vérité. Mais à force de le faire, ces personnes finissent par se retrouver seules. Alors que la solution est là tout le temps. Le Seigneur a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Vous réalisez que même dans nos mauvais jours, il ne nous abandonne pas. Même dans nos mauvais jours, Jésus continue à intercéder. Mais il y a une chose que Jésus ne peut pas faire à notre place, c'est décider. Je décide sur quoi je vais avoir les yeux. Sur Dieu, sa générosité, sur la vérité ou sur moi-même, dans la chair. L'apitoiement, eh bien, en général, augmente la durée d'une épreuve. 10 jours, il fallait 10 jours pour que les Hébreux traversent le désert. Ils ont mis 40 ans et cette génération-là est morte dans le désert sans avoir vu la promesse, à cause des paroles qu'ils ont prononcées. Alors, c'est pas tout, mais la solution, c'est quoi? Image 8. Parce que ça fait du tort à notre témoignage chrétien. La solution, c'est quoi? 8. C'est pas celle-là, c'est la dernière. Pour vaincre, pour me sortir de la dépression, eh bien, d'abord, c'est admettre que l'apitoiement est un ennemi. C'est un ennemi qui est aussi subtil que le serpent. Et c'est un ennemi qui peut détruire autant que la morsure, le venin d'un serpent venimeux. Attention quand on prononce des « pourquoi, pourquoi, pourquoi » ou « jamais, jamais, jamais » ou « encore, encore, encore ». Des « pourquoi personne ne m'appelle jamais ?» Ça, c'est un absolu quand on parle comme cela. Mais c'est aussi une prophétie que je prononce sur moi. Et puis, Philippiens chapitre 4 nous donne véritablement la clé. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 8, il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est-à-dire, ne gardez pas pour vous ce qui vous tracasse. Vous savez, cette terre, elle est remplie d'injustice parce que l'être humain n'a pas voulu de Dieu. Donc ça, c'est un fait. Et tant que Jésus n'est pas venu régner, eh bien, l'être humain va la gouverner sous des inspirations démoniaques et il y aura de l'injustice. Il y aura des choses qui sont moches qui vont continuer à se passer. Mais en tant que chrétien, je n'ai pas à être victime de ces choses-là. Aussi, quand quelque chose nous tracasse, nous sommes invités à nous approcher du trône de Dieu parce que nous sommes enfants de Dieu, nous avons un accès libre et nous sommes invités à articuler au Père ce qui nous tracasse. En même temps, qu'est-ce que l'on fait ? Une fois que l'on a dit à Dieu ce qui nous tracassait, parce qu'il faut quand même savoir qu'il le sait, on va parler à Dieu des promesses qui correspondent à la situation que nous traversons. Si quelqu'un est malade, c'est Seigneur, oh tu vois, il y a cette maladie, ça me tracasse parce que voilà, peut-être qu'il y a eu cette hérédité, ou alors ça fait trop longtemps, ou que sais-je, ou les médecins ont dit que, mais Seigneur, la parole dit que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Voilà la vérité. Et c'est ça que je vais regarder. Je vais pas, oh, encore moi, encore un de plus dans ma famille. Non, Seigneur, j'ai les promesses sur j'insiste. Et peu importe combien de personnes de la famille sont mortes de cette maladie, peu importe combien de personnes dans le quartier ou en France ont connu ce problème, je décide pour moi-même, je garde les yeux sur la promesse. Et Philippiens continue en disant, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire que la paix de Dieu, tu ne peux pas la raisonner. Et elle va au-delà de tes raisonnements. Il est dit, elle gardera vos cœurs. Ça, c'est un terme militaire. La paix de Dieu va monter la garde, va protéger ton cœur et tes pensées. Mais il y a dit aussi, voilà, ça, c'est la part de Dieu. Mais notre part, et ton voisin ne peut pas la faire pour toi. Ton père ne peut pas faire ce qui va suivre pour toi. Ta mère ne peut pas faire ce qui va suivre pour toi. Ton mari, ton épouse ne peuvent pas faire ce qui va suivre. Il est dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de tes pensées. Pour que nous cessions de nous apitoyer sur notre propre sort, qui n'est pas étranger à l'Éternel. Le Seigneur savait que nous passerions par là. Et dans sa générosité, le Seigneur a déjà pourvu, pas juste à la solution, il a pourvu bien plus que la solution. Notre victoire dans notre situation est ce qui donne gloire à Dieu. Ça s'appelle régner en Jésus-Christ. Mais il est dit pour cela, il va falloir que nous fassions attention à ce que nous acceptons dans nos pensées. Et là, mes amis, il faut que vous soyez aussi tranchants avec ce que nous acceptons de mettre dans nos pensées, que si nous avions un serpent dans la maison, qu'est-ce que l'on ferait ? On ferait tout pour s'en débarrasser. Qu'est-ce que l'on fait ? On remplace une pensée négative par une parole de Dieu. Et la Bible dit, cesse de penser à ce qui est faux. Première chose, vérifie, est-ce que ce que tu penses est vrai, que tu es seul ? Jésus a dit, je t'abandonnerai jamais. Est-ce que ce que le diable te dit, que tu vas mourir, est vrai ? Jésus a dit, je suis venu afin de vous donner ma vie, afin que vous ayez la vie en abondance. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Est-ce vrai que tu n'arriveras pas à payer tes factures ? Le Seigneur a dit qu'il a pourvu à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire. Est-ce vrai ? Donc, faisons attention à ce que nous acceptons dans nos pensées. Ne macérons pas là-dedans, je vous en ai parlé. Et ensuite, trouvons des raisons de nous réjouir dans le Seigneur. L'apôtre Paul a fini sa vie Et il était en prison quand il a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi ». Qu'est-ce qui lui a permis de garder la foi ? Le fait qu'il trouve, vous rappelez qu'on parle de la foi. Hein ? Qu'est-ce qui lui a permis de garder la foi dans ces conditions ? C'est parce qu'il avait trouvé des raisons de se réjouir dans le Seigneur. Je me réjouis de ce que je ne suis pas seul. Tes sentiments disent « Oh, si tu es seul !» Tu dis « En tout cas, ce n'est pas la vérité. C'est peut-être ce que je ressens, mais je m'attache à la vérité. » Et on garde les yeux sur les promesses, on garde les yeux sur le Seigneur. On trouve des raisons, comme on l'a entendu tout à l'heure. Sandrine nous a donné une parole. Des petites raisons de se réjouir. « Oh Seigneur, j'ai des cheveux. Oh Seigneur, je me suis levée ce matin. Oh Seigneur, j'ai un numéro de téléphone. Je connais au moins une personne sur cette planète. Oh Seigneur, j'ai un accès auprès de toi. Oh Seigneur, j'ai pas allé en enfer. Oh Seigneur, j'ai été pardonné. » Et tout d'un coup, on n'a plus les yeux sur soi et la lumière brille, la planète est bleue et on va au ciel. Amen. Alors, je vais vous encourager pour que nous ayons une foi forte. Il faut que nous décidions une bonne fois pour toutes. Je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort. Je refuse d'ouvrir cette porte-là qui ne va m'amener que vers une spirale descendante. Je décide, j'ai le pouvoir de décision et personne ne peut me l'enlever, ce pouvoir de décision. Et ça, je peux entendre le Seigneur qui se réjouit, le Seigneur qui rit, je peux voir son sourire, son éclat. Et combien le Seigneur est heureux quand nous prenons ce genre de décision. Église, la bonne nouvelle, vous êtes victorieux, vous êtes vainqueurs, vous êtes des conquérants. Rien ne peut vous garder en bas. À vous de décider la porte que vous franchissez. Amen. Merci Père. Merci Père, nous te louons, nous te bénissons, nous exaltons ton nom.
Pour ceux qui le souhaitent, effectivement, on va amener nos dîmes et nos offrandes au Seigneur. Dans Genèse, au chapitre 22, il nous est dit que, après avoir promis à Abraham, non seulement qu'il aurait un fils, mais que par ce fils, eh bien, il aurait une descendance qui serait aussi nombreuse que le sable au bord de la mer, que les étoiles dans le ciel, il nous est dit que Dieu demanda à Abraham, en le mettant à l'épreuve, de sacrifier son fils. Et on connaît le passage, Abraham donc prépare ce voyage avec son fils, et lorsqu'il est en route, Isaac lui dit au verset 7, « Mon père !» Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Et la suite nous montre que Abraham, eh bien, avait pris la ferme décision d'obéir à Dieu, même s'il ne comprenait pas forcément tout dans sa tête. Parce que le geste était déjà amorcé pour tuer son fils au moment où Dieu lui a dit « Stop, ne le fais pas ». Mais ce que ça me dit, ce passage-là, c'est la réponse que Abraham a donnée à son fils. Ce n'est pas une réponse qu'il a fabriquée pour la circonstance. Ça ne peut pas. Dans un moment aussi important, avec autant de pression, ce qui sort, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'individu. Et ce qui sort à ce moment-là, c'est une parole de foi. C'est « Je ne comprends pas tout, mais Dieu va pourvoir lui-même parce qu'il m'a fait des promesses et je crois que ces promesses vont se réaliser. » Et c'est ce que disait le pasteur à l'instant, c'est que Abraham a forcément dû, entre le moment où Dieu lui a dit « Sacrifie ton fils » et le moment où son fils lui a posé la question, à l'intérieur de lui, il a dû se répéter encore et encore et encore et encore. Il a fait la promesse, il accomplira la promesse. Il a fait la promesse, il va tenir sa promesse. C'est-à-dire qu'il a dû porter ses pensées uniquement sur ce qui était vrai, juste, pur, digne de louange, d'approbation, sur la parole de Dieu. Son regard a dû être porté uniquement, malgré la pression, malgré le stress, malgré l'anxiété, malgré les interrogations, uniquement sur la promesse de Dieu et le fait que celui qui a fait la promesse est fidèle. Dans Hébreux, il nous a expliqué ce passage et il nous a dit il était prêt même à aller jusqu'au bout du geste parce qu'il se disait ben, dans le pire des cas, Dieu ressuscitera mon fils. Mais ce qui est sorti de sa bouche à ce moment-là, c'est ce qui était dans son cœur pendant, moi je ne sais pas combien de temps a séparé la parole de Dieu qui lui a dit « il faut que tu sacrifies ton fils » du moment où il a scellé son âne et où il a commencé le voyage. Ou même du moment où ils sont partis de chez eux et le moment où Isaac lui a posé la question. Faudrait étudier le sujet. Mais ça n'a pas dû être l'espace d'une heure. Ça a été au moins 24 heures, voire plus. 3 jours. Que s'est-il passé pendant ce temps-là à l'intérieur de cet homme pour que la réponse qui sorte spontanément de lui, c'est « Dieu pourvoira à lui-même ». En ce qui concerne les offrandes, c'est exactement la même chose. Quelles sont les promesses de Dieu ? Qu'est-ce que tu mets et qu'est-ce que tu médites à l'intérieur de toi ? Qu'est-ce qui sort de ta bouche au moment où la pression commence à écraser ? Quand on appuie, qu'est-ce qui sort ? Quel est le jus qui sort au moment où on appuie ? Si tu entends ce qui sort de ta bouche, tu sais ce qu'il y a dans ton cœur. Si ce qu'il y a dans ton cœur n'est pas conforme à la parole de Dieu, change ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Continue de garder les yeux sur la promesse, sur l'amour de Dieu à ton égard, sur ce que dit la parole, mets-le dans ta bouche jusqu'à ce que ça fasse longue, jusqu'à ce que ce qui sorte de toi, c'est la foi. C'est la parole de foi. Amen. Seigneur, nous voulons t'amener nos dîmes, nos offrandes, non seulement par obéissance, ça c'est la base, c'est par obéissance que nous le faisons. Mais cette obéissance, Seigneur, elle est dans la foi. Elle est dans le fait que nous croyons que tu es un Dieu qui n'est que bon, qui a promis, qui a déjà fait le nécessaire à la croix. Nous croyons ce qui est écrit dans Éphésiens. Nous sommes déjà baignés de toute bénédiction, Seigneur, spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et maintenant, Seigneur, nous voulons porter nos yeux sur ta fidélité, sur ta provision, sur le miracle, sur le surnaturel, sur la bénédiction, Seigneur, sur le fait que tout ce que nous faisons réussit, sur le fait que nous avons la faveur en toutes choses. Pourquoi ? Parce que Christ nous a racheté cela. Il nous a racheté de la malédiction de la loi, il nous a transposé dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous avons tout en abondance, Seigneur, en toi. Merci, mon Dieu. Que ce qui sort de notre bouche, Seigneur, tandis que nous donnons, ça soit des paroles qui soient motivées par la foi, Seigneur, par tes promesses et les yeux que nous avons dessus, au nom de Jésus. Amen, amen. Tandis que les paniers circulent, je vous encourage, je vous invite à vous lever, on va justement proclamer la parole de Dieu. C'est ce que nous faisons dans cette église, ce qui va être affiché sur le mur derrière moi est une, on pourrait dire, une compilation ou un rassemblement ou un assemblage de différents versets des Écritures concernant ce que la Bible a à dire sur le sujet. Ensemble, conformément à la parole de Dieu, je crois que tout ce dont j'ai besoin pour accomplir ma destinée a été pourvu à la croix. Je suis béni en Christ, je suis oint pour prospérer. En apportant à Dieu mes dîmes et mes offrandes, je libère ma foi, car la foi sans les œuvres est morte. Je reçois proportionnellement une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Ainsi, je déclare que je suis libéré des dettes et des crédits. Je prête et je n'ai pas besoin d'emprunter. J'ai la faveur avec tout le monde. Tout ce que j'entreprends réussit. De superbes opportunités s'offrent à moi. Des bonus, des primes, des augmentations viennent à moi. J'ai la sagesse pour gérer tous ces biens matériels. Et je suis si béni que je peux donner pour de bonnes œuvres et démontrer la générosité de Christ afin que son nom à lui soit glorifié. Ange de Dieu, allez et exécutez ces paroles au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Restez debout pendant qu'on va prendre la Sainte Seine. Est-ce que les éléments peuvent s'approcher, s'il vous plaît ?